Sur notre route vers la célébration de la Nativité du Seigneur, voici que se dresse au milieu la figure étonnante de Jean, le cousin du Seigneur, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, le Baptiste, le prophète. Nous avons d'une part à recevoir, accueillir son témoignage, et d'autre part, à prendre modèle sur lui, puisque nous aussi, par le baptême, nous avons été consacrés comme des prophètes, des rois et des prêtres pour annoncer le Seigneur qui vient nous sauver. Entendre donc, recevoir le témoignage de Jean-Baptiste, non seulement dans ce qu'il dit, non seulement dans ce qu'il est, mais aussi dans la question qu'il se pose et qu'il nous pose. Car Jean-Baptiste fait poser par ses disciples cette question à son cousin Jésus, fils de Marie et de Joseph. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Es-tu celui qui doit venir ? Cette question renvoie à ce qu'avait proclamé, annoncé Moïse dans l'Ancienne Alliance, le grand législateur et médiateur du peuple de Dieu de la Première Alliance. Moïse avait dit « Un autre viendra plus grand que moi, qui verra Dieu et qui vous communiquera le salut de Dieu. » La question de Jean-Baptiste revient à poser la question « Es-tu celui que Moïse annonçait comme le médiateur suprême, définitif, parfait entre Dieu et les hommes ?» Celui qui, à la différence de Moïse, voit Dieu face à face, lui parle, et son enfant, et transmet la vie même de Dieu. Et la réponse de Jésus est parfaitement claire, puisqu'elle renvoie explicitement à ce qui avait été annoncé par les prophètes, les autres prophètes, notamment Isaïe, que nous avons nous-mêmes entendu. Quand viendra celui qui doit venir, Dieu en personne qui vient nous sauver, alors il accomplira cette œuvre de libération. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ces interrogations, frères et sœurs, nous porte à deux questions, au moins. La première, est-ce que nous avons assez contemplé, compris, reçu dans la foi qui est Jésus ? Celui qui ne cesse de venir à nous. En ce moment, nous faisons particulièrement en mémoire du Concile de Nicée. Nous proclamons le credo de Nicée-Constantinople qui proclame Jésus, vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, du même être, de la même essence, de la même substance, pas une autre identique, la même que le Père. Qui et Jésus pour nous. Le Saint-Père Léon XIV lui-même nous avertit, il l'a dit quand il était, il y a quelques jours, dans l'actuel İznik, ancienne Nicée, en Turquie, il a dit « Attention, il y a parmi nous, chrétiens, aujourd'hui, le risque de réduire la figure du Christ et d'en faire seulement un grand prophète. » Non. Il n'est pas un grand prophète, il est Dieu. Et en même temps qu'il est Dieu, il est vraiment homme et totalement homme. Et s'il est vraiment Dieu, si son œuvre continue à travers ses sacrements, sa parole, son Église, alors nous devons sans cesse faire grandir notre foi en Jésus, Fils de Dieu et Dieu Sauveur. Voilà, frères et sœurs, l'autre question que nous avons à nous poser aujourd'hui et maintenant. Comment aujourd'hui et maintenant, dans notre propre vie, dans celle de nos frères, nous reconnaissons la forme spécifique du salut que le Christ vient nous apporter? Car d'un certain point de vue, depuis environ 2025 ans, il ne semble pas que l'état du monde, globalement, soit bien meilleur. Et sans cesse, nous retombons dans nos ornières d'orgueil, de jalousie, de domination, de guerre. Il y a les petites que nous voyons dans les médias, les grandes que nous voyons dans les médias, et il y a les petites que nous vivons et qui sont bien réelles dans nos cœurs. Comment se réalise l'œuvre du salut? Comment Jésus, étant Dieu lui-même qui vient nous sauver, comment nous sauve-t-il? Il vient nous libérer. Mais la parole de Dieu et Jean-Baptiste lui-même, dans ce qu'il est, nous dit quelle est la condition pour recevoir ce salut. Accepter d'être pauvre. Jésus le dit lui-même, ce sont les pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle. Si nous croyons que nous sommes riches, que nous n'avons pas besoin de grand-chose, nous ne nous mettons pas dans la disponibilité pour recevoir la bonne nouvelle. Elle peut bien nous être dite et offerte gratuitement chaque jour. Mais nous considérons qu'en réalité, nous n'en avons pas besoin. Nous avons assez de biens pour vivre. Ce sont les pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle. Si je désire recevoir la bonne nouvelle, qui est la personne même du Christ, qui est Dieu, qui vient nous sauver en personne. La première condition, c'est de me demander et d'accepter de réaliser comment je suis pauvre. Et de même, comment je suis sourd, comment je suis lépreux, comment je suis boiteux, comment je suis aveugle. Car le Christ vient nous sauver en nous libérant spirituellement et humainement de toutes nos maladies qui nous coupent de la vie de Dieu. Et Jean-Baptiste lui-même est comme l'incarnation au milieu de nous de ce que nous devons être. D'un côté, il ne cesse de proclamer le Christ. D'un autre côté, il veut encore mieux le connaître. Il espère en lui. Mais lui-même n'est qu'un cri dans le désert, il n'est rien, il ne veut rien être. Il a soif, il est pauvre, il a faim, il est affamé de la justice de Dieu. Il est foncièrement, viscéralement, en attente, en désir, en soif, en aridité, c'est ce que nous dit, ce sont les termes d'Isaïe, de la venue du Sauveur, de la venue du salut. Voilà la condition, frères et sœurs, pour que nous recevions le salut qui est là à notre porte, mais qui réclame que nous nous ouvrions à lui. Recevant le salut, nous sommes invités à devenir nous aussi des Jean-Baptiste et à être pour nos frères des amis de l'époux, qui vont dire « Voici l'époux, voici celui qui enlève les péchés du monde, allez à lui. » Mieux nous l'aurons accueilli, reçu en nous-mêmes, plus le Christ Sauveur est reçu en nous, mieux nous sommes ses témoins, parce que nous ne partageons plus des idées lointaines, mais notre propre expérience d'être sauvés. Et je voudrais pour cela, aujourd'hui, frères et sœurs, évoquer des figures particulières. Vous avez peut-être appris, suivi que hier, ce n'est pas un fait anodin du tout. 80 de nos compatriotes français, 80, ont été béatifiés à Notre-Dame de Paris parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été assassinés consciemment en haine de la foi par l'idéologie nazie. 80 Français assassinés, principalement en 1944 et 1945, des prêtres, des séminaristes, des laïcs, assassinés parce qu'ils proclamaient le nom du Christ, parce que certains prêtres, clandestinement, alors qu'ils savaient parfaitement que cela était interdit par les chefs nazis, célébraient la messe, célébraient les sacrements pour leurs frères dans les camps et dans les camps du service de travail obligatoire, qu'ils confessaient, qu'ils proclamaient la parole de Dieu, qu'ils aidaient à prier, à réfléchir à l'Évangile. Ils savaient que cela était interdit. Ils savaient pourquoi c'était interdit, parce que l'idéologie nazie est une idéologie païenne, foncièrement anti-religieuse, foncièrement, radicalement, viscéralement. Ils ont été envoyés, ces prêtres et séminaristes, pour rendre le service de la foi à leurs frères qui en avaient besoin. Et parmi eux, frères et sœurs, il y a un prêtre de notre diocèse, l'abbé Louis Doumand. Il meurt dans un camp de concentration le 20 décembre 1944, à l'âge de 24 ans. Après à peine 2 ans de sacerdoce, dans sa très courte vie de ministère sacerdotal, il a été enseignant et surveillant au petit séminaire d'Annonay. Un policier a dit, il avait l'air d'une petite brebis bêlante. Mais quand il s'agissait de l'Eucharistie, il devenait un lion. Il a été assassiné parce qu'il a célébré la messe qui était interdite. Il est un témoignage vivant avec tous ses autres compagnons que nous sommes invités, nous aussi, à être des Jean-Baptistes, pas seulement de loin et en idée, mais à vivre du Christ, à le porter en nous et à le porter autour de nous et à être rempli de foi dans la puissance du Christ et d'ardeur apostolique pour soutenir, nourrir, aider la foi les uns des autres. Il a pris le risque de célébrer la messe consciemment et le soir de cette messe, il a été mis à mort. D'autres, dont ces 80, parmi eux, il y en a un qui a été assassiné au lendemain du dimanche du bon pasteur, un prêtre. Et il a dit, c'est cela le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Rendons grâce, frères et sœurs, pour le témoignage de Jean, le Baptiste. Toute sa vie n'est qu'un cri de soif et un cri d'appel et d'éveil pour que nous nous tournions vers le Christ, que nous nous ouvrions au Christ. Pour tous les saints qui, d'une manière ou d'une autre, ont tous réalisé ce programme de vie qui est le nôtre aussi. Et pour nos compatriotes assassinés martyr en haine de la foi par les nazis. Rendons grâce pour ce prêtre de notre diocèse, Louis Doumand, que son nom vive en nous, qu'il nous encourage et nous fortifie. Amen.